Chapitre 34. Dans nos cœurs à jamais, tu demeures. 3 ans après notre mariage, en juin 1992, la France ferroviaire s'est paralysée. À Malgrange, le train de 6h29 est devenu celui de 10h20, qui est devenu celui de 12h05, jusqu'à ce que le 13h30 s'arrête sur la voie à 16h et ne bouge plus pendant 48 heures. Des grévistes ont érigé un barrage à 200 mètres de notre barrière. Le train était bondé. Il avait fait particulièrement chaud ce jour-là. Les usagers ont dû très vite ouvrir les fenêtres et les portes du Nancy Épinal. Il n'y avait jamais eu autant de monde au casino. Les réserves d'eau en bouteille ont été écoulées en l'espace de quelques heures. En fin d'après-midi, Stéphanie ne passait plus les bouteilles en caisse, mais les distribuait directement sur les marchepieds du train. Plus personne ne faisait de différence entre les premières et les secondes classes. Tout le monde était à l'extérieur, à l'ombre du train, autour des rails. Les contrôleurs et le chauffeur SNCF avaient disparu en même temps. Quand les usagers ont compris que le train ne repartirait pas, des voitures ont commencé à arriver, des voisins, des amis. Certains voyageurs ont appelé de chez nous pour qu'on vienne les chercher. D'autres, de la cabine téléphonique. En quelques heures, les rames et les alentours du train se sont vidés. Toute la circulation dans Malgrange-sur-Nancy a été coupée. Les gens venaient jusqu'à la barrière fermée, récupéraient les usagers et rebroussaient chemin. À 21h, la grand-rue était silencieuse et le casino fermait ses portes. Quand Stéphanie a baissé les grilles, elle était écarlate. Au loin, on n'entendait plus que les voix des grévistes. Ils allaient dormir sur place, derrière le barrage. Alors que la nuit était déjà tombée et que Philippe Toussaint était parti faire un tour depuis longtemps, je me suis aperçue qu'en rame de tête se trouvaient toujours 2 passagers, une femme et une petite fille qui devait avoir l'âge de Léonine. J'ai demandé à la femme si quelqu'un pouvait venir la chercher, mais elle m'a répondu qu'elle habitait à 720 km de Malgrange, que c'était très compliqué, qu'elle arrivait d'Allemagne où elle venait de récupérer sa petite fille et qu'elle se rendait à Paris. Elle n'était pas en mesure de prévenir qui que ce soit avant le lendemain, et encore, ce n'était pas sûr. Je l'ai invitée à venir dîner à la maison. Elle a refusé. J'ai insisté. J'ai pris leur valise sans lui demander son avis et elles m'ont suivi. Léo dormait déjà à point fermé. J'ai ouvert toutes les fenêtres, pour une fois, il pouvait faire chaud à l'intérieur de la maison. J'ai fait dîner la petite Amy qui était épuisée. Pendant le repas, elle a joué avec une des poupées de Léo, puis je l'ai allongée à côté d'elle. En les regardant dormir côte à côte, j'ai pensé que j'aimerais avoir un deuxième enfant. Mais Philippe Toussaint ne serait pas d'accord. Je l'entendais déjà me dire que chez nous, c'était trop petit pour avoir un deuxième gosse. J'ai pensé que c'était notre amour qui était trop étriqué pour accueillir un nouvel enfant, pas la maison. J'ai dit à la grand-mère d'Amy, qui s'appelait Célia, qu'elle était obligée de dormir chez moi, que je ne la laisserais pas retourner dans un train vide, que c'était trop dangereux. Et je lui ai dit aussi que pour la première fois depuis des années, grâce à cette grève, j'étais en vacances, que j'avais une invitée et que j'espérais que cette ligne de chemin de fer serait coupée le plus longtemps possible, qu'enfin j'allais pouvoir dormir plus de 8 heures d'affilée sans être dérangée par l'alarme de la barrière. Célia m'a demandé si je vivais seule avec ma fille. Cela m'a fait sourire. Au lieu de répondre, j'ai ouvert une très bonne bouteille de vin rouge que je gardais pour l'occasion, sauf qu'elle ne s'était jamais présentée jusqu'à ce jour. Nous avons commencé à boire. Après 2 verres, Célia a accepté mon invitation à dormir chez moi. Je l'installerai dans notre chambre et nous dormirions sur le canapé-lit, mon mari et moi. Nous dormions sur le canapé-lit quand les parents de Philippe Toussaint nous rendaient visite, 2 fois par an depuis notre mariage. Ils venaient chercher Léo pour l'emmener en vacances. 1 semaine entre Noël et le Nouvel An et 10 jours l'été pour aller au bord de la mer. Après le 3e verre, mon hôte a dit qu'elle acceptait mon invitation à condition que ce soit elle qui dorme sur le canapé-lit. Célia avait une cinquantaine d'années. Elle avait de beaux yeux bleus très doux. Elle parlait doucement, avait une voix rassurante et un bel accent du midi. J'ai dit « D'accord pour le canapé-lit ». Et j'ai eu raison. Quand Philippe Toussaint a fini par rentrer, il est allé directement s'écrouler sur le lit de notre chambre. Il n'a pas eu un regard vers nous. J'ai dit à Célia, en voyant passer Philippe Toussaint, « C'est mon mari ». Elle m'a souri sans répondre. Célia et moi sommes restés dans le salon à parler jusqu'à 1h du matin. Les fenêtres étaient toujours ouvertes. C'était la première fois depuis notre arrivée qu'il faisait si chaud dans les pièces. Célia habitait Marseille. Je lui ai dit que c'était sûrement elle qui avait amené le soleil jusqu'à l'intérieur de la maison, que d'habitude la chaleur n'entrait pas, qu'il y avait une barrière invisible qui l'en empêchait. Quand on a fini la bouteille de vin, je lui ai dit que j'acceptais qu'elle dorme sur mon canapé-lit à condition que je dorme avec elle, parce que je n'avais jamais eu d'amis ni de sœurs, et qu'à part avec ma fille quand elle était bébé, je n'avais jamais dormi avec une copine, comme le font les vraies copines. Célia a répondu « D'accord, copine, on dort ensemble ». Cette nuit-là, j'ai réalisé un vœu en rattrapant un peu le retard que j'avais sur l'amitié. Toutes ces nuits où j'aurais voulu dormir chez une meilleure amie avec ses parents à côté. Toutes ces nuits où j'aurais voulu faire le mur avec elle pour retrouver les garçons assis sur leur mobylette au bout de la rue. Je les ai un peu rattrapés. Je crois que nous avons parlé jusqu'à 6h du matin. Le jour s'était levé depuis un petit moment quand j'ai fini par sombrer. À 9h, Léo est venu me réveiller pour me dire qu'il y avait une petite fille qui ne savait pas parler dans son lit. Amy était allemande, elle ne parlait pas un mot de français. Ensuite, Léo a posé des questions en cascade. « Et pourquoi tu dors dans le salon? Pourquoi papa dort tout habillé sur le lit? C'est qui la dame? Pourquoi il n'y a plus de train? Qui c'est maman, ces gens? C'est qui la petite fille? C'est quelqu'un de notre famille? Elles vont rester là ?» Hélas non. Célia et Amy sont reparties 2 jours après. Quand elles sont remontées dans le train, j'ai cru que j'allais mourir de chagrin, comme si je les connaissais depuis toujours. Toutes les grèves ont une fin, les vacances aussi. Mais j'avais rencontré quelqu'un, ma première amie. Par la fenêtre entr'ouverte du train, voiture 7, Célia m'a dit « Viens vivre avec nous à Marseille. Tu seras bien là-bas, je te trouverai du travail. » D'habitude, je ne juge personne, mais comme la France est en grève, disons que moi aussi je suis en grève et que je vais te dire le fond de ma pensée. Violette, il est évident que ton mari n'est pas fait pour toi. Quitte-le. J'ai répondu qu'on m'avait déjà privé de parents, que jamais je ne priverais Léonine de son père. Même si Philippe Toussaint était un père, entre guillemets, c'était quand même un père. Une semaine après leur départ, j'ai reçu une longue lettre de Célia. Dans cette lettre, elle avait glissé 3 billets de train aller-retour, Malgrange sur Nancy, Marseille. Elle avait un cabanon dans la calanque de Sormiou, elle le mettait à notre disposition. Le frigidaire serait plein, qu'on en profite, enfin. Elle écrivait cela. « Profitez-en, enfin, tu vas pouvoir prendre de vraies vacances, Violette, et voir la mer avec ta fille. » Elle écrivait aussi que jamais elle n'oublierait que je lui avais offert le gîte et le couvert, qu'en échange de ces 2 jours que je lui avais donnés, ce seraient des vacances chaque année à Marseille. Philippe Toussaint a dit qu'il n'irait pas, qu'il avait autre chose à foutre que d'aller chez une gouine. C'est ainsi qu'il appelait toutes les femmes avec lesquelles il ne couchait pas, des gouines. Moi, j'ai répondu que ça tombait bien qu'il ne vienne pas, comme ça il pourrait garder la barrière pendant qu'on partirait Léo et moi. Il n'a pas dû aimer nous imaginer prendre du bon temps sans lui. Il a eu un regain d'amour. Pour la première fois en 6 ans, à sa demande, la SNCF nous a trouvé des remplaçants en quelques heures. 15 jours plus tard, le 1er août 1992, nous avons découvert Marseille. Célia nous attendait au bout du quai de la gare Saint-Charles. Je me suis jetée dans ses bras. Il faisait déjà beau sur le quai. Je me souviens d'avoir dit à Célia « Il fait déjà beau sur le quai. » Quand j'ai vu la Méditerranée pour la première fois, j'étais à l'arrière de la voiture de Célia. J'ai baissé ma vitre et j'ai pleuré comme une enfant. Je crois que j'ai eu le choc de ma vie, le choc du majestueux.